Mais vraiment, je vous encourage à avoir votre Bible en version papier. C'est génial les smartphones, c'est génial ChatGPT. Non, ben, moi je ne suis pas fan pour être honnête, j'en suis pas encore là. Peut-être ça viendra, mais j'ai vraiment du mal. Je vous garantis un message ce matin, 100%, 0% de ChatGPT. C'est uniquement moi et la parole de Dieu. Mais je vous encourage à avoir votre Bible. Vous savez, moi qui aime bien courir même dans la nature, quand on a un GPS, on suit bêtement le GPS. Au final, on ne sait pas vraiment où on va. Quand on a une carte papier, quand on crée un itinéraire, on voit où on est. Et ça nous aide à nous repérer dans l'espace. C'est pareil avec la Bible. Le fait d'avoir une Bible en papier, on peut se repérer dedans et voir un petit peu la chronologie des faits. Et c'est tellement plus, ça nous aide tellement à grandir dans l'étude de la Bible. Et du coup, la Genèse, je ne vais pas vous lire. Je me suis basé sur Genèse 1, 2 et un tout petit peu de 3, mais on ne va pas tout lire. Ça serait un peu long, c'est des passages que beaucoup connaissent. Mais juste pour vous résumer un tout petit peu. Du coup, au tout début, il y a ce haut commencement, et ensuite on voit la création, il y a ces fameux jours. Et bien sûr, on comprend que ce n'est pas forcément des jours de 24 heures, mais Dieu appelle ça des jours, c'est ces périodes où il crée tout un tas de choses. Donc le jour 1, Dieu crée la lumière. Vous savez, voilà, il y avait l'esprit qui planait au-dessus des eaux, la terre était informe et vide. Et le jour 1, le premier jour, Dieu crée la lumière. Il sépare la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, Dieu crée le ciel, en fait. Il crée le ciel. Et le troisième jour, il crée la terre. Le quatrième jour, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil et les étoiles. On peut voir comme ça, il y a une logique dans toute la création. C'est très cohérent. Et une fois qu'il y a tous ces éléments qui sont réunis, ben, il y a de la lumière, il y a la terre, et ben, les éléments sont réunis pour qu'il y ait de la vie. Et du coup, Dieu crée les animaux. Et le sixième jour, Dieu crée les hommes. L'homme avec un grand H. Et là, vous savez, chaque jour, Dieu dit que c'est bon, tout ce qu'il a créé. Une fois qu'il a terminé comme ça cet ensemble, il dit que c'est très bon. Et ensuite, il y a le septième jour où Dieu choisit de rien faire, de se reposer. Et bien entendu, Dieu n'a pas voulu se reposer parce qu'il était fatigué. Il ne sommeille ni ne dort, la Bible nous dit. Il n'est jamais fatigué, évidemment. Mais c'est qu'il était tellement heureux de toute cette création. Il était tellement satisfait de tout ce qu'il avait créé qu'il a dit, ben voilà, on va prendre un jour maintenant pour s'arrêter et contempler cette création. Et souvent, quand on parle du repos, du Shabbat, on pense au quatrième commandement d'étape de la loi. Mais bien avant tout ça, ce repos était prévu, ce Shabbat était prévu dès l'origine du monde. Dès l'origine du monde, Dieu avait prévu qu'on puisse vraiment se reposer et regarder, contempler sa création, contempler tout ce qu'il faisait. Amen. Et donc ensuite, il y a le chapitre 2, donc il commence par justement ce septième jour et ce repos. Et puis ensuite, au verset 7, il nous est dit que Dieu, avec de la poussière du sol, forma l'homme. Et puis, verset 8, le jardin d'Éden avec les deux arbres. On reviendra après, bien sûr, sur certains de ces éléments, mais c'est juste pour vous résumer un petit peu. Deux arbres, vous savez, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a ce fleuve qui coule avec l'arbre de la vie et ce fleuve qui se divise en quatre bras. Et combien encore cette eau qui vient de ce jardin, et bien c'est la source de la vie aussi, c'est symbole, c'est signe de la vie que Dieu répand comme ça dans le monde. Et ensuite il donne la mission à l'homme de cultiver le jardin. Et il lui dit, il y a un seul commandement à ce moment-là, il lui dit tu peux manger de tout. Juste, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis ensuite, on y reviendra aussi, Dieu crée Ève, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il crée Ève, le meilleur pour la fin, la femme. Et ensuite, on bascule au chapitre 3, et là, patatras, vous êtes au courant, un gros souci, ce qu'on appelle la chute, et bien Adam et Ève décident de ne pas respecter le commandement que Dieu a donné et d'écouter Satan, le père du mensonge. Et du coup, il y a une séparation là. Retenez bien ce mot séparation. Il y a une séparation qui se fait là entre Dieu et les hommes. pas forcément du fait de Dieu d'ailleurs, on le verra. Mais, et puis là, il y a tout un tas de malédictions qui commencent à être exposées. Mais dès le début où ces malédictions sont exposées, qu'est-ce qu'il y a ? Le plan du salut dont Dieu s'adresse à elle et lui dit que dans sa descendance écrasera la tête du serpent. Donc voilà, pour se résumer un petit peu du début de l'origine de la Bible, de l'origine de Dieu avec les hommes, de la terre entière d'ailleurs. Et du coup, il y a trois fonctions du Père dont on parle souvent, mais qu'on peut vraiment voir dans ces passages-là. C'est que Dieu est un Père qui pourvoit, on va le voir, Dieu est un Père qui promeut, et Dieu est un Père qui protège. Pourvoit, promeut, protège. Et ça, c'est vraiment des fonctions d'un père, du père céleste, mais aussi d'un père, le papa, dans une famille. Et donc on va voir Dieu qui est le papa par excellence, le modèle déjà dans ces passages. Il pourvoit, il promeut et il protège. Amen. Et du coup, on peut revenir au début, au chapitre 1, et au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Non, excusez-moi. Voilà. Ben, c'est pas dans cette Bible-là que j'ai pris, pardon. En gros, il y a une fois que Dieu a créé tous les éléments dans ces six jours, il dit, et puis, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et de la terre. Ce qui m'a marqué dans ce « et », en fait, dans certaines versions, il y a écrit « et dans d'autres versions, il y a écrit « puis ». En fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a tous ces jours, toutes ces périodes de la création où Dieu crée, comme je vous ai dit, de manière vraiment ordonnée, de manière vraiment parfaite et de manière très... il y a vraiment du sens, dans le sens de la création pour en arriver finalement à l'homme. En fait, c'est que toutes les conditions sont réunies pour que l'homme puisse vivre, et ensuite la femme, bien sûr, avec lui. Et Dieu crée toute la création, et Dieu crée ce jardin. Ensuite, le jardin d'Éden. Et vous savez ce que veut dire le mot Éden ? Il veut dire délice. Ça veut dire que non seulement Dieu a tout créé, il a créé la terre, le ciel, la terre, les animaux, il a tout créé pour l'homme, et ensuite il a créé ce jardin qui veut dire délice, c'est-à-dire que Dieu a choisi de placer l'homme pas dans un vulgaire terrain vague, pas, vous savez, dans un endroit où il a le minimum vital, où il peut subsister comme ça. Quand vous voyagez un peu, on peut aller dans des régions ou dans des endroits, par exemple si vous allez dans la montagne ou si vous allez dans les déserts, eh bien vous pouvez subsister. J'ai regardé l'autre jour un document sur une alpiniste française qui a fait les 14 sommets de plus de 8000 mètres qui existe au monde, et c'était incroyable, mais elle disait quelque chose de très fort, elle disait l'homme n'est pas fait pour vivre ici, parce qu'au-dessus d'une certaine altitude, ben, vous êtes obligé d'avoir de l'oxygène pour subsister. Mais Dieu n'a pas créé un endroit comme ça pour l'homme. Dieu a créé un endroit, un jardin des délices, un lieu extraordinaire où l'homme pourrait vivre dans cette communion avec lui. Et ça, c'est vraiment un signe de ce que je vous disais. Dieu est un Dieu qui pourvoit, et il ne pourvoit pas juste au minimum, c'est un Dieu de l'abondance, c'est le Dieu de l'extravagance, de l'abondance. Il y a des passages dans la parole qui parlent de l'extravagante grâce de Dieu. C'est tellement important de réaliser, nous on peut souvent avoir cet esprit de pauvreté, à vouloir le minimum, à chercher, à demander le minimum, mais Dieu est un Dieu qui veut donner en abondance. Amen. Ça me rappelle un tout petit épisode de notre vie avec Emmanuel où on devait partir en Angleterre, et on avait économisé pour partir vivre un an en Angleterre. On avait pas mal économisé, mais il fallait qu'on y aille en voiture. À l'époque, on avait une vieille Renault Scénic, et ben voilà, il fallait qu'on la remplisse. On avait Loïs à l'époque, donc on avait beaucoup d'affaires. Et il fallait qu'on la remplisse. On avait un gros coffre de toit rempli pour aller jusqu'à Bedford, là où on allait vivre pendant une semaine. Et avant de partir, il a fallu faire un check-up de la voiture. Et on l'a amené chez le garagiste, on allait faire une très, très longue distance. Et puis, très gentiment, il nous a dit il y a quelques réparations quand même à faire avant de partir. Et je me rappelle qu'il y en avait pour plus de 3000 euros. Alors là, vous avez économisé, vous êtes privé, etc. Et vous dites bon. Et je me rappelle, je me revois d'ailleurs où j'étais le jour où on n'a même pas demandé en fait. Je ne sais même pas si on a prié pour ça. Mais je me rappelle ma maman arriver et nous tendre un chèque en blanc. En disant, ben voilà, écrivez le montant que vous avez besoin sur le chèque. Et on a pu payer les réparations de la voiture. Et merci Seigneur, quoi. On n'avait même pas vraiment eu le temps de prier pour ça. Mais dès le début de cette année qu'on avait choisi de mettre à part pour Dieu, ça nous a vraiment marqué que Dieu pourvoit ce pourquoi, ce qui est dans sa volonté, vraiment, il a vraiment zéro problème pour pouvoir à tous nos besoins. Amen. C'est vraiment un encouragement de voir Dieu comme un bon Père. La parole de Dieu dit « Demandez et vous recevrez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. » Osons demander au Dieu qui pourvoit. Ce n'est pas qu'on demande des choses égoïstes pour notre plaisir égoïste, mais vraiment Dieu, il a envie de donner à ses enfants qu'il aime. Amen. Vous savez, il y a étayer un peu ça, il y a ce nom de Dieu, Jéhovah Jiré. Dieu qui pourvoit. Et vous savez à quel moment Abraham appelle Dieu comme ça? C'est au moment où il doit sacrifier son fils Isaac sur l'autel. Et évidemment, c'est Dieu au dernier moment qui pourvoit au sacrifice avec cet agneau. Et c'est là que Abraham appelle Dieu le Dieu qui pourvoit. Il était à deux doigts de devoir se séparer son enfant qui était la promesse de sa descendance, toutes ces promesses dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il aurait une descendance qui outrepasserait le nombre d'étoiles dans le ciel. Et là, d'un coup, il est sur le point de tout perdre. Et Dieu pourvoit avec un agneau. Et c'est là que Abraham appelle Dieu Jéhovah Jiré, le Père qui pourvoit. Amen. Et c'est pour ça que ça me parle tellement par rapport à cette période de l'Avent dont Sam parlait. Et c'est pour ça que ce symbole, comme ça, comme il a été placé ici, est tellement parlant. C'est que Dieu, au moment où c'était le bon moment, il a pourvu à un sauveur. Il en parle déjà dès le commencement. Dès le commencement, il en parle. Et un jour, le sauveur est venu. Nous qui devions périr à cause de nos fautes, Dieu a pourvu en un sauveur, Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement bien de pouvoir préparer Noël. On est tellement abreuvé par ce côté commercial de Noël aujourd'hui, partout où on va dans notre quotidien, et de vraiment revenir à l'essentiel de ce que c'est que cette période de Noël. Je sais que Jésus n'est probablement pas né en décembre, c'est même sûr. J'ai envie de dire, peu importe. Prenons ce temps dans l'année, prenons ces semaines, ces quelques jours, pour préparer nos cœurs afin de vivre ce que Dieu a pour chacun d'entre nous ce Noël. Et puis aussi parce que c'est un des moments privilégiés de l'année pour que d'autres connaissent le Sauveur que Dieu a pourvu. Amen. Philippiens 4:19. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, tu passes peut-être par une période où tu as des manques financiers, où tu as des besoins. N'hésite pas, demande à Dieu. Je sais que des fois c'est dans les larmes, mais Dieu est celui qui pourvoit. Et Dieu orchestre les choses autour de nous. Il ne nous laisse pas dans la galère. Il vient nous aider. Il est plein de miséricorde. Donc ça, c'était pour ce premier aspect que Dieu nous montre par sa création. Il y a ce chant, vous savez, des fois je trouvais ça un peu auto-centré. Oh Dieu, tu es infiniment grand, et à un moment donné, ça dit, et pour moi, tu as tout créé. Mais il y a une vérité là-dedans, que Dieu a voulu nous placer dans ce jardin des délices. C'est pour nous qu'il a créé ce lieu merveilleux, ce lieu dans lequel on est appelé à habiter toujours aujourd'hui. Amen. Donc deuxièmement, Dieu promeut, il nous aime. Et comme nous, on est avec nos enfants, on est fiers d'eux, on est, on a envie de dire tellement ils sont extraordinaires, tellement on les aime, et bien Dieu est comme ça avec nous. Avant de nous promouvoir, c'est lui qui nous donne notre identité. Nous sommes ses enfants. Et donc, Genèse 1, 26 et 27 nous dit que, on va le lire, donc je reviens sur le verset tout à l'heure, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et le bétail, et sur toute la terre, etc. Et vraiment, ça m'a, encore une fois, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image, pour qu'il nous ressemble. C'est tellement incroyable de dire, de réaliser que Dieu nous a créé comme lui, c'est un petit peu logique. S'il est notre père, forcément, on lui ressemble. Quand on voit nos parents, eh bien, on a forcément des traits de ressemblance avec eux, que ce soit physiquement, mais aussi dans le caractère. Il y a plein de bonnes choses. Parfois, il y a des choses aussi plus difficiles. Mais c'est pareil avec Dieu. Il nous a créés à son image. Et bien sûr, comme on l'a lu, il est écrit à notre image. Et pourquoi ce notre ? Alors, en fait, il y a deux choses. Premièrement, il y a ce côté, vous savez, c'est un petit peu quand les nobles ou les rois parlent, ils disent « oui, faisons ci, faisons cela », c'est un peu une marque de noblesse de parler comme ça au pluriel. Dieu est un Dieu d'une grande noblesse, d'une grande majesté. Mais il y a aussi ce côté collectif de la Trinité. Alors, c'est pas théologiquement juste de dire ça comme ça, parce qu'on a un seul Dieu. Mais il se trouve que Dieu s'est manifesté en trois personnes différentes et que j'aime bien quand même cette idée de la famille céleste. Donc Dieu nous crée à son image, on lui ressemble individuellement, mais comme il dit, à notre image. Et c'est intéressant, je remarquais ça, de voir que Dieu a créé l'homme, on y reviendra, homme et femme. En fait, il a aussi créé l'homme dans l'altérité. Comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont chacun des caractéristiques et des choses qu'ils amènent qui sont différentes, eh bien, Dieu a choisi que l'homme, de la même manière, soit manifesté de deux manières différentes, homme et femme. Et comme la Trinité se complète merveilleusement bien, eh bien, l'homme et la femme se complètent merveilleusement bien. Et il y a cette altérité, quand vous lisez, surtout dans l'évangile de Jean, plein de chapitres, vous voyez l'honneur qui existe entre les trois personnes de la Trinité. Et bien Dieu, de la même manière, faisons l'homme à notre image, il crée hommes et femmes vraiment différents, mais très complémentaires, et pour qu'il y ait cette relation d'honneur l'un envers l'autre. Et je trouvais ça tellement beau, on est non seulement créé à l'image de Dieu parce qu'individuellement on le ressent, mais aussi, hommes et femmes, on est créés à l'image de ce Dieu Elohim, ce Dieu pluriel. On peut faire équipe de la même manière que la Trinité fait équipe. Amen. Et Dieu t'a créé comme lui. C'est lui qui te donne ton identité, comme dans l'évangile de Luc, chapitre 3, on voit cet épisode dont on parle très souvent, mais qui est tellement important, où Jésus demande à être baptisé par son cousin Jean-Baptiste, et là, une voix, la voix du Père qui promeut, se fait entendre, et qu'il le promeut devant tout le monde. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, selon les versions en qui je mets tout mon plaisir, ou qui fait toute ma joie. Il est émerveillé par son fils. Il le promeut publiquement devant tout le monde, avant même qu'il ait accompli quelconque ministère. C'est juste le cousin de Jean-Baptiste là qui vient. Et Jean-Baptiste, il ne veut pas. Il dit, mais je ne suis pas digne de délier la lanière de tes sandales. Jésus est dans cette posture vraiment d'humilité. Il s'humilie devant son cousin pour que lui le baptise. Mais alors qu'il choisit de s'humilier, Dieu le promeut publiquement. Amen. Et donc, on est fait à son image. Et attention à quelle identité on choisit de se conformer. Comme je vous ai dit, on est imparfait jusqu'à ce qu'on soit réunis vraiment avec Dieu, on sera imparfait. Et du coup, il y a des choses dans le caractère, dans notre identité, dont on n'est pas très fier. C'est mon cas, en tout cas, peut-être que je suis le seul dans ce cas-là. Mais il y a des choses extraordinaires dans mon caractère, il y a des choses hyper pénibles. Ne riez pas, s'il vous plaît. Mais, et c'est pareil, on hérite des très bonnes choses de nos parents, mais il y a aussi des choses plus difficiles, des traits de caractère que des fois. Et moi, je suis, ah là, c'est tellement dur quand on voit dans nos enfants les choses, nos défis, nos traits de caractère qu'on n'aime pas, qu'on les voit dans nos enfants. Je me dis, c'est pas possible. J'ai pas réussi à garder ça pour moi, il a fallu ça. Et ça, c'est important de réaliser, les amis, de ne pas être dans la fatalité. Dire, ah ben, je suis comme ça. J'ai horreur de cette phrase, de dire, ah ben, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Du coup, toutes ces choses générationnelles qu'on ne veut pas, on a le droit de s'en débarrasser. Et merci, Seigneur. On voit que Dieu agit et qu'on ne garde pas tout ce que nos parents qu'on n'aimait pas nous ont donné. Comme eux ont fait du travail aussi, chacun, à chaque génération, on a cette opportunité avec Dieu de repartir à zéro et d'être délivré des choses qui nous gardent captifs afin de vraiment donner le meilleur à nos enfants. Amen. Et je t'encourage, s'il y a des choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser, ne sois pas satisfait avec ça. Va voir quelqu'un, fais un sozo, fais GPN, fais quelque chose. Mais ne prends pas ça pour « ah ben je suis comme ça, c'est comme ça ». Non. Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Dieu, il t'a créé, il dit, c'est très bon. Voilà mon fils bien-aimé. Donc, il t'aime malgré tes défauts, évidemment, heureusement. Mais il veut en plus qu'on soit débarrassé. Amen.
Non, pour ça. Amen.
Ah, ça fait du bien. Et l'ennemi, le père du mensonge, Satan, et bien...
Pour 100 ans.
Bien sûr... il vient remettre tout cela en question parce que quand il vient les voir, il dit « Ah !» Il remet en question. Alors qu'ils ont été créés à leur image, il dit « Mais est-ce que Dieu vous a réellement dit ça ?» En fait, l'ennemi vient toujours remettre en question ce que Dieu a dit. Et fais attention de qui tu écoutes. Est-ce que tu écoutes ce que Dieu dit de toi ? Ou est-ce que tu écoutes ce que Satan vient tordre, distordre et remettre en question ? Et dans la promotion, c'est vraiment important de réaliser, même nous en tant que, là je parle au papa, aux mamans aussi bien entendu, mais on a vécu des choses ces dernières années qui nous ont vraiment bluffé dans ce domaine-là. Une fois, c'était pas du tout à l'époque de tradition qu'on faisait, mais on a nos amis et qu'on aime tellement, la famille Arnaud, vous savez, qui Rémi intervient régulièrement ici. Et une fois, ils nous ont invités pour un repas de Shabbat. Et ben voilà, eux, ils ont des origines juives, ils sont vraiment, ils ont un appel... pour la réconciliation entre chrétiens et juifs, etc., passionnés. Et j'aimais bien parce que des fois, je parlais de ces sujets-là avec d'autres personnes et ça m'énervait, je ne comprenais pas. Mais avec mon ami Rémi, j'aimais bien, il m'a vraiment appris. Et un jour, ils nous ont invités justement à partager ce repas de Shabbat, hein, vraiment en suivant un petit peu les préceptes de Dieu. Et on était à table et ils nous expliquaient un peu tout et c'était des choses qu'on avait déjà entendues, mais le fait de les vivre à table, dans la situation, vraiment, ça prenait vie. Et à un moment donné, il s'est mis à prier pour ses enfants, à les bénir comme ça, devant nous. On connaissait bien la famille, on connaît les enfants, mais pas non plus, on ne se voit pas au quotidien. Et du coup, je me disais, tiens, et je voyais l'atmosphère qu'il y avait dans ce moment, c'était absolument merveilleux, quoi. Et ces dernières années, voilà, on a grandi dans vraiment comprendre l'intérêt d'appliquer ces principes, c'est pas qu'on veut devenir juif, mais c'est qu'on réalise la profondeur qu'il y a dans ce que Dieu a donné à son peuple, et que nous-mêmes, ayant été greffés à son peuple, eh bien, on veut les bénéfices aussi, donc on applique les principes. Et une première fois, je me rappelle la première fois, où on s'est mis autour de la table avec ma famille, avec nos quatre filles, avec Emmanuel, et est venu ce moment où je me suis levé, et je les ai bénis comme ça, chacune à leur tour, en commençant par Emmanuel. Et là, pourtant, nous, on a des caractères assez forts dans ma famille. Je vous promets, chez nous, c'est souvent, il y a pas mal d'énergie. C'est assez animé, on va dire, l'ambiance à la maison. Mais à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu un calme, il y a quelque chose qui est venu dans l'atmosphère. Et je voyais mes filles, quand je priais pour elles comme ça, et elle ne bougeait plus, je voyais qu'elle recevait, et quand je les bénissais, quand je les promouvais comme ça, et je voyais les autres regarder, et elles regardaient avec des grands yeux comme ça, et waouh, il y avait un côté solennel, c'était la première fois qu'on le vivait entre nous, mais j'ai dit, purée, mais ça marche aussi chez vous, quoi, c'est fou, il se passe quelque chose, quand le papa bénit sa femme, bénit ses enfants individuellement en disant les qualités de chacun, etc., c'est vraiment le plan de Dieu. C'est vraiment ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Et c'est ce qui nous permet en tant qu'homme, en tant que papa de faire, et bien sûr aussi en tant que maman, de promouvoir nos enfants. Donc voilà, c'était juste merveilleux. Merci Seigneur qu'on puisse continuer à faire ça, puis à se promouvoir les uns les autres. Quand Olivier me dit combien il m'aime comme ça devant tout le monde, c'est pas... Olivier, il le fait même quand on n'est pas en public. Mais c'est aussi pour montrer et témoigner c'est comme ça qu'on peut se traiter les uns les autres, qu'on est appelé à se promouvoir les uns les autres. C'est ça l'honneur. Qu'est-ce que c'est l'honneur? C'est réaliser la valeur de quelqu'un et le traiter en conséquence. Et c'est pas toujours naturel en tant qu'être humain. Parfois on est dans la méfiance, on est dans la peur. Mais Dieu nous appelle à des gens qui se promeuvent les uns les autres. Amen. Et il nous donne cette identité, on ne l'a pas lu, mais je voulais vraiment dire ça. Il te donne ton identité, il t'appelle par ton nom. Michel nous a rappelé comment il n'aimait pas son prénom et comment Dieu lui a vraiment révélé combien son prénom était important, que ce n'était pas n'importe quel prénom. Emmanuel nous a raconté aussi plusieurs fois l'histoire. Alors qu'on l'appelait Maëlou, que Dieu lui avait vraiment demandé de reprendre son prénom d'Emmanuel. En fait, c'est pas un hasard le prénom que tu as. Tes parents ont choisi un nom, peut-être que tu pourrais croire de manière arbitraire, mais en fait, c'est pas un hasard. Et je t'invite à rechercher la signification de ton prénom. Moi, j'ai Mathieu, ça veut dire don de Dieu. Et tard, c'est des fois, je me regarde dans la vitre et j'ai pas du tout l'impression d'être un don de Dieu, quoi. Je peux être énervé contre moi-même, je peux être dans une période difficile, je me regarde dans le miroir et je dis ouais, non, Dieu a choisi que je porte le prénom de Matthieu, qui veut dire don de Dieu. Je suis un don de Dieu, mais merci Seigneur. En fait, ce n'est pas un hasard le nom qu'on a, il y a vraiment la marque de quelque chose que Dieu veut faire dans notre vie. Je t'invite vraiment à rechercher la signification de ton prénom et à voir ce que Dieu veut te dire au travers de ça. Et puis il y a même des gens dans la Bible à qui Dieu a donné un nouveau nom. C'est possible que ton prénom veuille dire quelque chose de vraiment négatif. C'est possible. Mais je t'invite quand même à rechercher, parce que peut-être que Dieu veut te révéler quelque chose par rapport à ton prénom, veut te donner un nouveau nom, ou veut te révéler quelque chose de nouveau sur ton identité. Amen. Et bon, je ne sais plus quel verset c'est, mais il y a un moment donné où... attendez, vraiment je vous le dis. Oui, 2 verset 7, Genèse 2 verset 7, où Dieu le Père insuffle la vie à Adam. Il lui souffle, c'est écrit, il lui souffle dans les narines. Si quelqu'un te souffle dans les narines, il vaut mieux qu'il soit brossé les dents avant. Si tu ouvres les yeux à ce moment-là, tu vas être très 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 proche de son visage. Imaginez Dieu le Père qui a insufflé le souffle de vie à Adam. Adam d'un coup est venu à la vie. Qu'est-ce qu'il a vu? Le visage de son Père bien-aimé. Et ça parle de la relation que Dieu veut avec nous. Une proximité, un amour. Je vous dis juste, je ne peux pas résister, quelques versets du psaume 139. Tu m'as fait tel que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Il y a des traductions qui disent « mon corps était une masse informe », comme la terre était une masse informe. Quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe, et tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Peut-être que tu es né dans un contexte familial difficile. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans ta famille vraiment douloureuses et difficiles. Oui, tu as été engendré par un papa et une maman biologique, un homme et une femme. Mais avant tout, avant cela, tu as été voulu par Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. plus que tes parents, c'est Dieu qui t'a voulu et qui t'a créé et qui t'aime et qui t'opprobe. Amen. Et c'est vraiment beau de voir comment Adam aussi, avec Ève, il l'approbe tout de suite. Dès qu'il la voit, qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, os de mes os, chair de ma chair. Il y a vraiment ce caractère du Père qui promeut, qui est déjà donné à Adam. Et ensuite, le dernier point, il faut qu'on finisse, mais le Dieu, le Père qui protège. Et on voit dans la Genèse combien Dieu met des protections, des cadres pour nous protéger. Au chapitre 2, verset 17, c'est là qu'il dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est fou, on aurait pu croire que Dieu aurait pu créer l'homme sans, en enlevant la possibilité du péché, en enlevant la possibilité qu'il n'y ait pas de règles, quoi, qu'on soit câblé dans notre cerveau juste pour l'obéissance, mais ce ne serait même pas de l'obéissance parce qu'on n'aurait pas l'option de désobéir. Mais il se trouve que Dieu a placé dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il se trouve que Dieu a voulu une relation de confiance avec ses enfants. Il a voulu savoir que leur amour n'était pas un amour de robot, c'était un amour de choix, un amour. L'obéissance, elle est bonne que quand elle est dans l'amour. On obéit à Dieu parce qu'on l'aime et non l'inverse. Et Dieu a placé cet arbre pour qu'on puisse choisir de l'aimer. Il voulait une véritable relation d'amour. L'amour, au-delà d'un sentiment, c'est un choix. Dieu voulait qu'on puisse faire ce choix de l'aimer, ce choix de lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'il a placé cet arbre. Et c'était une protection aussi pour qu'il y ait un véritable amour. Amen. Dieu, quand il crée Ève, et il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu crée l'alliance du mariage. Avant même, ils n'avaient pas de père. S'ils avaient un père, c'était Dieu, ils n'avaient pas de mère. Dieu institue le mariage aussi comme une protection. Il quittera son père et sa mère, il y a la fondation d'un nouveau foyer. Il fera alliance avec sa femme, une intimité relationnelle, un choix. L'amour est un choix. Puis, ils feront une seule chair. L'intimité sexuelle qui est dans un cadre protégé, sécurisé de l'alliance. Amen. Dieu est un Dieu protecteur. Les jeunes, moi, quand j'étais ado, tout le monde me disait « Non, mais c'est pas écrit dans la Bible, il faut pas coucher avant le mariage, vas-y et tout. » Bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est écrit. Il y a un ordre, il y a une protection de Dieu. Et c'est pas que Dieu veut nous retirer du plaisir. Au contraire. À l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai vu les dégâts de la sexualité hors mariage. Je l'ai vécu personnellement et je l'ai vu dans beaucoup d'autres vies. C'est pour ça que Dieu a institué ce cadre protecteur. C'est très silencieux dans la salle. Merci Seigneur pour ta protection qui est bonne, agréable et parfaite. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est que j'avais jamais réalisé ça. Quand vous prenez chapitre 2, verset 17, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et quel est le verset qui vient juste après ? L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Du coup, ça m'a fait rire parce que je n'avais jamais réalisé ça. Il dit à Adam, il n'y a pas Ève encore, Adam est seul, et il lui dit « Surtout, voilà, cet arbre-là, non, ça, c'est pas pour toi, n'en mange pas. » Tu peux manger tout ce que tu veux. Il y avait une seule règle, les amis, à respecter. Il n'y en avait pas 10, il y en avait une seule. Et il dit ça à Adam, bon, ça, cet arbre, non, s'il te plaît, tu n'en manges pas. Et le verset juste après, je sens que ça ne va pas le faire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça m'a fait rire comme quoi. C'est comme si Dieu créait Ève aussi vraiment comme une protection, quoi. Et je crois que c'est une réalité. On le voit dans les statistiques de notre société que, et tout ça bien sûr c'est pas contre les célibataires, c'est pas, il y a de l'appel au célibat qui vient de Dieu, qui est peut-être minoritaire, mais dans l'altérité, dans le mariage, dans la relation entre l'homme et la femme, il y a une protection aussi. C'est que quand on est, on a un miroir quand on est marié. Alors ça ne fait pas toujours plaisir, hein, parce que ça nous renvoie les choses difficiles, c'est parfois difficile, mais c'est une protection. Et c'est comme si Dieu, à ce moment-là, veut donner une protection aussi à Adam, en lui donnant sa femme, Ève. Bon, malheureusement, c'est quand même elle qui a accepté la pomme. Non, pardon, mesdames, je ne pouvais pas m'empêcher. Non, bien sûr que non. Non, mais c'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est rigolo de voir que ces deux versets sont l'un d'après l'autre. Et puis dans le chapitre 3, verset 24, on va le lire. Donc ensuite il y a la chute, il y a toutes ces malédictions. Après avoir chassé l'homme, donc vous savez, Dieu est obligé, hein, de chasser l'homme du jardin d'Éden, à l'est de l'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. En fait, c'est une protection aussi de Dieu. Dieu a empêché l'homme de revenir dans le jardin pour pas qu'il vive éternellement dans cette situation de mort, pour que la mort ne vive pas éternellement, pour que le salut puisse venir dans l'humanité au travers d'un nouvel homme qui est Jésus. Donc même dans la limite, Dieu nous met des limites, Dieu nous met des stops des fois. Dieu a mis un stop à Adam et Ève, et les stops que Dieu nous met, ce sont des limites qui sont pour nous, qui sont des protections. Des fois, on ne s'en rend pas compte, quoi. On a l'impression que Dieu ferme des portes. Mais merci Seigneur que Dieu ferme des portes. Merci Seigneur. Une fois, on a eu une situation familiale où on a prié. Moi, j'espérais vraiment que Dieu parle dans un certain sens. J'étais convaincu que c'était sa volonté. Et on s'est dit, on va prier en famille, on a prié avec nos filles. Et d'un coup, il s'est passé quelque chose. Au travers d'une de nos filles, il s'est passé quelque chose. Et là, j'ai su que c'est Dieu qui nous disait stop. Et franchement, c'était très dur. Personne d'autre n'a capté le truc. J'ai rien dit à personne. J'ai dit, j'espère que Emmanuel et les autres se sont pas rendu compte. J'ai rien dit. Mais moi, je savais que c'était Dieu. Et plus tard, en reparlant, on s'est vraiment rendu compte que c'est Dieu qui nous disait stop. Et c'est parfois pas facile. Mais c'est une protection. Parce que Dieu, s'il nous dit des stop, c'est qu'il a bien meilleur pour nous derrière. Et souvent, j'ai remarqué, quand il met des stops dans nos vies, c'est qu'il veut qu'on travaille nos cœurs. Cet été, vous savez, on a fait un temps de sabbatique avec Emmanuel, et on a vécu ça aussi comme un stop. Et alors qu'on priait, on s'est vraiment vu, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans un désert. Soit le désert, tu crois que c'est une malédiction de Dieu, soit tu réalises que c'est un temps où Dieu veut travailler ton cœur, comme il a travaillé le cœur d'Israël dans le désert. Amen. Donc Dieu est un Père protecteur. Et du coup, Satan, on le voit dans le tout début du chapitre 3, il vient détourner ce que Dieu a dit. Et Satan, c'est le premier orphelin. Si vous regardez Ézéchiel 28, c'est un des passages où c'est expliqué que Dieu a chassé Satan du ciel. Et du coup, il y a eu cette séparation qui a été mise entre le Père et Satan, qui est un ange de lumière. Et Satan, il ne veut pas tomber tout seul. Et c'est pour ça qu'il va voir Adam et Ève. Il veut faire d'autres orphelins, d'autres séparés, comme lui a été séparé. Et il s'y prend très bien. Mais merci Seigneur, je vais arrêter là, grâce à Jésus. La séparation que Satan a amenée dans le monde est anéantie. Et l'accès à Dieu, l'accès au Père est totalement ouvert. Il n'y a plus aucune entrave pour accéder à Dieu, pour être sauvé, pour être libéré. Et vous savez, Dieu, quand Adam et Ève ont péché, se sont trompés, ont fauté, il n'a pas dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Adam, où es-tu? Dieu, il veut cette relation. Et peut-être si Adam et Ève s'étaient repentis à ce moment-là, les choses auraient été différentes, on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu, il veut la relation. Souvent, nous, on se justifie, on trouve des excuses. Mais ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que Dieu veut la relation. Et la repentance est tellement bonne pour ça, de changer le pardon, plus que la repentance, le pardon, demander pardon. Et on a toujours cette opportunité de demander pardon, d'être humble comme Jésus l'a modelé. Et là, l'humilité précède la gloire, les amis. Là, on peut être réunis avec Dieu. Et juste, j'aimerais bien qu'on prie, juste quelques minutes. Donc, vous pouvez prier avec moi. Seigneur, merci pour ton cœur de Père que tu démontres dans ce livre, Seigneur, de la jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir un peu de piano? Je ne sais pas si John est toujours là. Merci. Merci, John. Seigneur, merci pour ce cœur de Père qui est révélé dans ces trois premiers livres. Seigneur, merci parce que tu es un Père qui pourvoit. Seigneur, tu es un Père qui promeut et tu es un Père qui protège. Seigneur, on est tellement émerveillés par ta grâce. Seigneur, merci parce que beaucoup d'entre nous, on peut te voir comme distant, comme lointain, loin dans le ciel, alors que nous galérons sur la terre. Seigneur, cette vision est totalement fausse, totalement erronée. Tu es celui qui insuffle la vie dans nos narines, dont le visage est presque collé à notre visage. Tu es celui, comme on l'a chanté, qui nous prend dans tes bras d'amour. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, à ouvrir tes mains et vraiment à demander à Dieu une nouvelle révélation de son amour de Père. En fait, je réalise souvent qu'il y a peu de problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un gros câlin. Bien souvent, on n'est pas bien, on est anxieux, on est inquiet pour des choses. Il suffit d'un câlin et les choses sont remises en perspective. C'est le pouvoir incroyable de l'amour. L'amour peut tout. Et le Seigneur ce matin veut encore te toucher par son amour. Il ne veut pas que tu te sentes loin de lui. Ça, c'était le plan de l'ennemi. Il veut que tu te sentes aimé par lui. Alors, juste ouvre-lui ton cœur. C'est juste entre toi et lui. Vous savez, j'ai parlé de faire des entretiens, des sozos, des entretiens conduits par Saint-Esprit, de faire des semaines GPN. C'est extraordinaire, tous ces outils. Mais tu sais quoi? Au quotidien, tu peux vivre ça. Tu as juste à fermer tes yeux, à aller dans ta chambre, dans le lieu secret, peu importe. Des fois, tu peux ouvrir tes yeux dans la nature et à dire « Papa, j'ai besoin de toi ». Et là, il vient. Et là, il te touche. Tu peux juste ouvrir sa parole. Et alors que tu lis cette parole, son amour vient encore toucher ton cœur. Ça, c'est la normalité des enfants d'un Père comme Dieu. C'est la normalité. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on oublie cette normalité et on vit pas comme tu avais prévu. On vit comme si tu étais loin, comme si tu étais lointain. Alors, je t'invite juste une minute, deux minutes. Fais connaître tes besoins à ce bon Père. Peut-être ce matin, tu as besoin du Père qui pourvoit. Jéhovah Jireh, ce matin, veut se manifester à toi. Demande-lui. Peut-être ce matin, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu as besoin que ton identité te soit révélée à nouveau. Qui il a fait de toi? Dieu se plaît à dire « Regardez mon fils, ma fille ». Laisse-moi focaliser sur Dieu, mais Emmanuel m'a appris ça hier ou avant-hier. Au moment de la conception d'un bébé, vraiment de la conception, il y a une réaction chimique avec du zinc qui produit une explosion. Ça, en fait, il y a une décharge de zinc dans cet élément du sang et ça produit un genre de feu d'artifice. Et quand vous regardez au microscope, au moment où il y a la conception, et bien vous voyez un micro, feu d'artifice plein de lumière. Voilà comment Dieu s'est senti quand il t'a créé. Il se réjouissait, il a fait un feu d'artifice au moment de ta conception. Et peut-être ce matin, tu as besoin du Dieu qui te protège. Peut-être que tu as peur en ce moment. Tu as besoin de la protection de Dieu. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont en ce moment, qui vivent cette peur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ton amour pour moi. Moi qui ne le mérite pas, Seigneur. Envoyer ton Fils pour manifester cet amour. Merci, Papa. Amen.
Juste deux paroles. Je sens qu'il y a plusieurs personnes dont tu as passé la quarantaine et comme des choses qui remontent, parfois c'est enfoui et il suffit d'un événement pour que les choses remontent. Et tu sens que tu es en ce moment travaillé sur ton identité et sur l'affirmation du Père. Tu n'as jamais été affirmé par ton Père. Et aujourd'hui, ça crée comme une insécurité que tu n'avais pas avant. Ça s'est comme révélé. Je sentais que Dieu voulait. S'il le révèle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut se révéler comme ton Père céleste qui est parfait et qui veut venir guérir ce manque d'affirmation que tu as eu de ton Père terrestre. Et si ça te parle vraiment, j'aimerais juste avoir tous les yeux fermés. Je vous invite à fermer les yeux. On peut juste lever nos mains. Si ça te touche, parce que je sens que le Seigneur veut travailler nos cœurs ce matin. Et vous touchez vraiment ceux qui se sentent dans l'insécurité, l'amour du Père. Il vient nous sécuriser et nous dire, voilà, je ne crains plus parce que mon Père est là et à mes côtés. Et comme Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus, il veut t'inviter à poser ta tête sur la poitrine de ton Père céleste. Et que tu puisses recevoir l'amour du Père ce matin. Est-ce que ça parle à plusieurs? Ça s'est révélé il y a peut-être quelques années. Il y a comme une insécurité qui est venue. Et le Père veut t'affirmer ce matin. Seigneur, je te remercie vraiment pour toutes ces mains levées. Parce que tu veux venir affirmer vraiment leur identité de fils ou de fille. Tu es aimé du Père. Le Père t'aime d'un amour éternel. Et je prie, Seigneur, que tu viennes chasser et guérir toute cette insécurité. Qu'ils puissent poser, Seigneur, leur tête sur ta poitrine. Et alors que tu poses ta main sur eux, qu'ils puissent se sentir enveloppés de ton amour. Qui vient leur dire que tu les appelles par leur prénom. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis là et tu n'as rien à craindre. Merci Seigneur. Tu viens guérir vraiment ce manque d'amour du Père. Et le Seigneur te dit, je suis fier de toi. Je suis fier de qui tu es et je veux te relever et te restaurer afin que tu puisses rentrer dans l'appel que j'ai prévu pour toi de toute éternité. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois cet amour qui peut transformer, qui peut guérir. L'amour de Dieu peut toutes choses. Et aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Et la deuxième parole que j'ai reçue, c'est que je sens qu'à 4 ans, il y a quelqu'un ici, tes parents ont divorcé. Et tu as été rejeté par l'un de tes parents. Il me semble que c'est ta mère, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, je sais qu'à 4 ans, tes parents ont divorcé. Ça a comme amené une insécurité dans ta vie. Est-ce que ça parle à quelqu'un alors qu'on a les yeux fermés? Je vous invite juste par respect à fermer vos yeux. Et je sens qu'il y a quelqu'un ici, Dieu veut te libérer ce matin. Ça a comme créé une vraie insécurité en toi, 4 ans, tes parents ont divorcé. De la paix, et vraiment tu te sens tourmenté aujourd'hui, et Dieu veut t'apporter la paix. Vraiment, je suis assez sûr de cette parole, personne n'a levé la main, mais si ça te parle, vraiment je t'invite, Jésus est le prince de la paix. Il vient nous apporter la paix, et il y a comme cette insécurité qui est là. Et Seigneur, je veux libérer ta paix vraiment dans la vie ce matin. Si tu sens que tu